France Inter, il est 7h30, soyez les bienvenus. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des professeurs qui partagent leur classe et leur pratique. Une démarche encore trop rare en France, mais qui permet d'améliorer les résultats des élèves. C'est ce que révèlent les enquêtes PISA sur les différents systèmes éducatifs. Le PISA 2019 sera publié aujourd'hui. À suivre un reportage dans un collège du Val d'Oise. Peut-être bientôt des murs pour empêcher les pesticides de polluer les habitations. C'est l'une des solutions proposées par les syndicats agricoles qui ont rendez-vous à Matignon aujourd'hui. Dans ce journal également, la réforme qui embarrasse la droite, la réforme des retraites, comment se positionner à deux jours du 5 décembre, analyse du service politique. La suite de la COP25, zoom sur les pays les plus vulnérables qui demandent des indemnisations aux plus riches. Et puis comment lutter contre les hyper-trucages sur Internet, les deepfakes. Facebook lance un défi aux internautes.
Au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'économiste et historien Nicolas Bavret.
France Inter.
Quand des professeurs, Sébastien, ouvrent la porte de leur classe à d'autres enseignants.
On pourrait appeler cela de la coopération éducative. C'est encore peu répandu dans l'Hexagone où la salle de cours est un endroit souvent fermé aux regards extérieurs, mais c'est de moins en moins le cas. Les enseignants français suivent ainsi ce qui se fait déjà ailleurs. En effet, les études PISA, qui comparent les systèmes éducatifs dans le monde, montrent que les pays avec les meilleurs résultats font une large place à l'échange de pratiques à l'observation entre enseignants. En France, ça commence donc à émerger. Exemple, collège Copernic de Montmagny dans le Val d'Oise. Reportage dans une classe de 3e avec Sonia Princet.
Pendant cet atelier philo, une professeure d'art plastique observe le travail de son collègue.
Mais là, maintenant, aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est le bonheur ?
Pour moi, le bonheur, c'est profiter...
Ici, les professeurs de français ont commencé il y a 3 ans à mettre en commun leur méthode et s'inspirent les uns des autres. Julie Vatel était remplaçante. Séduite par ce travail d'équipe, elle a demandé à être titularisée dans ce collège.
Personne n'a la bonne méthode. Quand quelqu'un a une bonne idée, il ose en parler et parfois c'est très agréable justement de s'en saisir pour pouvoir la réutiliser.
Cette enseignante a découvert par exemple « Silence, on lit » que nous détaille Thomas Desquerou, professeur de lettres lui aussi.
Chaque collègue dans sa salle de français a une bibliothèque avec des livres que les élèves viennent prendre pour lire au début de chaque cours. C'est une collègue qui a initié ça et on s'en est emparé tous collectivement. Et comme tous les profs proposent aux élèves de lire pendant 5-10 minutes au début de chaque cours, eh bien ça leur donne des repères concrets pendant 4 ans de la 6e à la 3e.
Et cette régularité produit déjà quelques effets, comme le dit Christophe Angebaud, l'un des précurseurs de ces échanges de pratiques.
On voit que des élèves prennent confiance pour prendre la parole. Donc on le voit sur des cas individuels que cette attention-là, elle produit des résultats. Mais c'est un travail de fourmi.
L'effet est aussi visible sur le climat scolaire. Il y a moins d'incidents et les élèves se sentent mieux dans leur collège.
C'était un vrai moment de bonheur pour tous.
Voilà le reportage de Sonia Princet. Les résultats de l'enquête PISA 2019 seront donc révélés ce matin. Une étude regardée de très près tous les 3 ans. Résultat dans le journal de 9h.
Il est 7h33 et si l'on construisait des murs autour des champs pour limiter la pollution aux pesticides?
C'est l'une des propositions des syndicats agricoles qui sera sur la table aujourd'hui sur d'une réunion à Matignon. Les agriculteurs qui avaient bloqué le périphérique parisien, on s'en souvient la semaine dernière, pour alerter une fois de plus sur leurs conditions de vie. Ils se plaignent de niveaux de revenus très bas, de l'agribashing et des contraintes de plus en plus lourdes sur l'utilisation des pesticides. Alors, quelles solutions envisage le gouvernement? Élément de réponse avec Fabien Cazot.
C'est sur les zones de non-traitement aux pesticides que le gouvernement se sait particulièrement attendu. Pourquoi ne pas les réduire drastiquement, voire les abolir dans les cas où le matériel utilisé pour traiter les surfaces agricoles est suffisamment performant et sûr, ou dans le cas, demandent certains syndicats agricoles, où des murs seraient construits autour des exploitations pour empêcher les produits phytosanitaires de se diffuser dans l'air. Sur ce point, une validation scientifique s'impose, estime le gouvernement, qui se dit prêt à demander à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, une étude sur l'opportunité de tels murs. Faut-il en construire et à quelle hauteur? L'étude devrait être commandée aujourd'hui ou au plus tard d'ici fin décembre pour prouver aux agriculteurs que leurs idées ne restent pas lettre morte. C'est clairement un objectif prioritaire pour le gouvernement. gouvernement qui veut éteindre la colère de la profession, comptant par ailleurs sur la montée en puissance des mesures Egalim censées améliorer les revenus des agriculteurs face à la grande distribution, alors que les négociations tarifaires annuelles commencent tout juste cette semaine.
J-2 avant les grèves du 5 décembre contre la réforme des retraites avec un front syndical qui s'élargit. Hier, la CFDT cheminots a finalement décidé d'appeler tous les cheminots à se mettre en grève reconductible jeudi. Chez les Républicains, eux, on a choisi de rester au milieu du guet, ni avec les contestataires, ni avec le gouvernement. Cécilia Arbona.
Cogner avec modération sur le projet de réforme des retraites, c'est la consigne qui semble circuler chez les Républicains. Annie Genevard, présidente du Conseil national du parti.
La méthode est anxiogène puisque le texte suscite énormément d'interrogations et d'angoisses. Il faut réformer, d'ailleurs notre famille politique l'a fait à 3 reprises. Ce que nous voulons, c'est mettre fin aux régimes spéciaux.
En 1995, Éric Woerth a vécu de l'intérieur la révolte populaire contre le plan d'Alain Juppé. Il était à l'époque le conseiller du Premier ministre.
On essaye d'éviter d'en dire trop pour éviter de remettre de l'huile sur le feu. On essaye de savoir comment ça va se passer, donc de mesurer l'ampleur. Je suis pas dans la tête d'Edouard Philippe. Vous savez, si on est sûr de la réforme et donc de l'élément qui met les gens dans la rue, ou empêche les trains de rouler ou les métros de rouler, on cède pas aux intérêts catégoriels. Si on a déjà des plans B de recul, alors en général, les choses se passent extrêmement mal.
Jeudi, les Républicains vont compter les points au bord du ring, sans pousser le gouvernement dans les cordes, mais sans non plus lui éponger le front lorsqu'il recevra trop de coups venant de la rue.
Un rappel avec le très lourd bilan des intempéries dans le sud-est de la France. Au moins 6 morts et une femme de 61 ans toujours portée disparue dans le Var. Les intempéries toujours, mais cette fois aux Philippines, balayées en ce moment par le typhon Kamuri avec des rafales de plus de 230 km/h, des milliers de personnes ont été évacuées et l'aéroport de Manille fermé par précaution. Des pluies diluviennes plus fréquentes, des ouragans en cascade, mais aussi la submersion des îles ou la désertification. Les effets du changement climatique se multiplient, on le sait. C'est tout l'enjeu des conférences sur le climat. La COP25 a commencé hier à Madrid. On s'intéresse ce matin aux pays les plus vulnérables au réchauffement, et des pays souvent pauvres qui demandent aux pays les plus riches et les plus polluants des indemnisations. Sandy Dauphin.
Dans le jargon des Nations Unies, on les appelle les pertes et dommages, un mécanisme qui doit bénéficier à des pays comme les îles Marshall. Cet archipel du Pacifique, altitude moyenne 2 mètres au-dessus de la mer, est menacé par la montée des eaux. Hier, sa présidente Hilda Hein a lancé un appel vibrant dans un message vidéo à la COP25.
The most vulnerable atoll nations, like my country.
Les atolls les plus vulnérables, comme mon pays, sont déjà dans le couloir de la mort. L'eau recouvre déjà la plus grande partie de notre territoire à un moment ou un autre de l'année. En tant que nation, nous ne voulons pas fuir, mais nous refusons aussi de mourir.
Le financement des pertes et dommages subis est un sujet de discorde depuis des années entre pays du Sud et du Nord. Des milliards sont en jeu. Mamadou Onadia fait partie de la délégation du Burkina Faso.
L'économie de notre pays est basée sur l'agriculture. Alors nous voyons un lien entre les questions des sécheresses et les questions des changements climatiques. Alors lorsqu'on perd par exemple du bétail, lorsqu'on perd des récoltes dues au changement climatique que nous n'avons pas causé, il est bon qu'il y ait réparation quelque part. Et c'est ce que nous sommes, c'est de ça que nous sommes en train de parler.
Le mécanisme des pertes et dommages est l'un des derniers points à régler à Madrid pour enfin boucler le manuel d'utilisation de l'accord de Paris. À Madrid, Sandy Dauphin, France Inter.
En bref, à l'étranger, le Chili, pays à l'origine organisateur de la COP25, cherche à sortir de la crise sociale et politique qu'il traverse depuis le mois d'octobre, qui a fait jusqu'ici 23 morts. Le gouvernement chilien a mis hier 5,5 milliards de dollars sur la table. Un plan qui devrait générer, selon les autorités, 100 000 emplois nouveaux l'an prochain.
Et on en vient, Sébastien, 7h38, à cette nouvelle arme de désinformation massive sur Internet, les deepfakes, qui sont des fausses vidéos totalement truqué.
Grâce au deepfake, on peut faire dire n'importe quoi à Barack Obama sans rien y voir ou presque, des hyper-trucages impossibles à voir à l'œil nu. Alors pour lutter contre cette nouvelle tendance des fausses nouvelles, des fake news, Facebook a lancé un défi aux internautes, le Deepfake Detection Challenge, ou comment mettre au point des parades pour mieux démonter ces trucages de plus en plus élaborés, Sophie Bécherel.
On peut désormais, sur des photos de vacances, ajouter une personne qui n'était pas là. Grâce à Photoshop, n'importe quelle influence France devient mannequin sur les réseaux sociaux. Rien de bien méchant, sauf quand c'est un personnage politique qui se met à prononcer des discours déformés ou imaginaires. Avec son Deepfake Challenge, Facebook veut trouver des moyens de lever la supercherie, explique Antoine Borde, directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook.
L'objectif, c'est d'être capable d'avoir des méthodes qui permettent automatiquement, étant donné une vidéo, de dire si celle-ci est une vidéo authentique ou si elle a été manipulée ou trafiquée par des opérateurs humains ou informatiques.
Les équipes devront proposer des solutions qui vont au-delà des outils de détection classiques. Elles se baseront notamment sur une grande découverte française de l'intelligence artificielle, les réseaux de convolution. Camille Coupry, chercheuse au Fairlab, en explique le principe.
Dans le cerveau, il y a plusieurs couches de neurones qui analysent successivement les images. Et dans un réseau de convolution, c'est un peu la même chose. Il y a plusieurs couches de calculs complexes qui permettent d'analyser les différents contours qu'il y a dans les images, les différents mouvements. Et grâce à ces calculs complexes, l'ordinateur va pouvoir nous dire si la vidéo qui a été en entrée de ces opérations est vraie ou fausse.
À terme, le but est de rendre accessible à tout le monde cette capacité de démystification des images.
Sophie Bécherel, on termine avec un mot de sport et la remise des ballons d'or. Hier soir, 6e ballon d'or pour Lionel Messi, joueur désormais le plus titré de l'histoire, mais pas le plus enthousiaste. Je n'ai pas le temps d'en profiter, dit-il, tout va si vite, selon le prodige argentin. Chez les femmes, c'est l'américaine Megan Rapinoe qui repart avec le ballon d'or, deuxième femme de l'histoire à décrocher cette distinction. On l'écoute.
Everyone knows that's, one of, if not the most.
Tout le monde sait que c'est un des prix les plus prestigieux que l'on peut avoir dans le football. Mais pour moi, cette récompense, c'est aussi et surtout celle de toute une équipe. Ce n'est pas qu'un prix individuel. J'ai fait toute ma carrière de joueuse au sein d'une équipe. Ce sont mes coéquipières qui m'ont tirée vers le haut, m'ont poussée à réussir à être meilleure. Donc je me sens comme quelqu'un, bien sûr, qui est au cœur de l'attention, parce que je sais que j'ai réalisé une belle performance. Mais pour moi, je le redis, c'est plus une récompense d'équipe. Je pense que tout ce qui est hors du terrain est également lié à ce qu'on a fait toutes ensemble, ce qu'on a fait sur le terrain, m'a aidé à grandir, à me trouver en tant que personne.
Voilà l'humilité de Megan Rapinoe qui la joue collectif. Megan Rapinoe, nouveau ballon d'or féminin.
Merci Sébastien Legénie.